journal est présenté par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Ce n'est pas encore un épilogue au mouvement agricole. Les réouvertures des axes routiers sont progressives. Certains blocages subsistent et les attendent aussi. Les annonces de l'exécutif vont désormais devoir être mises en musique. Et parfois, la feuille du gouvernement est presque blanche. Exemple avec la demande d'Emmanuel Macron d'un Egalim européen. Les explications d'Angélique Bouin dans un instant. Le droit du sol à Mayotte, bientôt durci. Cela passe par une proposition de loi constitutionnelle qui sera présentée par Emmanuel Macron. C'est ce que nous dira Stéphane Robert. La mort de 3 travailleurs humanitaires en Ukraine, dont 2 Français, rappelle les difficultés et les risques prises par les ONG pour venir en aide aux populations. Nous expliquera de son côté Gwendal Lavina. Et puis l'Italie, deuxième étape de notre série de journées spéciales Être européen. Camille Magnard nous emmènera dans les Pouilles, une terre d'immigration aujourd'hui comme il y a 30 ans, avec l'arrivée de dizaines de milliers d'Albanais. Les barrages se lèvent progressivement et presque tous, même si la colère des agriculteurs ne retombe que partiellement. De nombreux axes bloqués sont rouverts à la circulation, notamment en Île-de-France. Certains points de blocage subsistent toutefois, même si la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale ont appelé dès hier soir à suspendre le mouvement. La Confédération paysanne, elle, veut continuer la mobilisation. On a fait le choix de ne pas abandonner les paysans ni la revendication sur le revenu et les prix, dit sa porte-parole Laurence Marandola. Et les propositions du gouvernement ne passent pas toutes. Je vous propose tout d'abord d'écouter Paul Chaillou, un éleveur de vaches laitières à Plessé en Loire-Atlantique. Il veut rester sur son barrage. Par ailleurs, il ne comprend pas le volet anti-environnemental de certaines annonces.
Les questions des normes environnementales et l'arrêt des plans phyto et des choses comme ça, on est totalement opposé à ce qui a été proposé. En fait, moi je pense que c'est une vraie bombe à retardement, là, les mesures qu'il a annoncées hier. Il n'y a aucune mesure structurelle. C'est mon retardement social, environnemental et puis de santé publique. La mise en pause du plan éco-phyto, on ne peut pas continuer comme ça. En fait, je leur laisse annoncer ça aux familles des paysans et paysannes qui sont malades parce qu'ils ont utilisé des pesticides. En fait, ils remettent en cause aussi les zones de non-traitement, donc les ZNT. Les ZNT, c'est des distances préconisées pour traiter proche des habitations, proche des écoles. Donc ça veut dire qu'on va peut-être voir des pulvées avec des produits phyto au bord des cours de récréation, au bord des jardins. Voilà. Et en fait, les phyto, il y en a peut-être besoin dans certains systèmes et il faut absolument les réduire. Mais alors là, on fait un vrai. En fait, toutes les avancées qu'on avait gagnées ces dernières années, on les perd, quoi. Et c'est une vraie négation des avancées environnementales et scientifiques.
Interview signée Catherine Pétion, on l'aura compris, tous les syndicats ne sont donc pas totalement sur la même ligne. Reste qu'après les salves d'annonces gouvernementales, l'ensemble de la profession clame sa vigilance quant à l'application des mesures et des dossiers ouverts par l'exécutif, avec en tête un premier bilan lors du salon de l'agriculture à la fin du mois de février. Encore faut-il que l'intendance suive. Par exemple, hier à Bruxelles, Emmanuel Macron a demandé une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Le chef de l'État a également réclamé un Egalim européen. Cela permettrait d'éviter un contournement de la loi Egalim en France via les centrales d'achat à l'étranger. Mais Emmanuel Macron peut-il avancer rapidement sur cette question, Angélique Bouin?
Non, car à ce stade, c'est une demande de la France, alors soutenue certes par son commissaire au marché intérieur Thierry Breton, qui, a-t-il dit ce matin sur France Info, va la porter en interne, mais interrogé à la mi-journée, le porte-parole de la commission, Éric Mamère, n'était pas très à l'aise sur cette question.
Il est clair que les revenus qu'obtiennent les agriculteurs de leurs activités, les prix qu'ils sont en mesure de pratiquer pour leurs produits, est un sujet d'intérêt pour la Commission européenne. Mais pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet.
Ce que l'on comprend, c'est que la priorité ici, c'est de travailler sur la feuille de route pour simplifier la PAC promise hier soir par la présidente Ursula von der Leyen. Les tensions sur les prix et la façon d'y remédier seront en revanche sans aucun doute au menu de la vaste consultation stratégique lancée par la Commission sur l'avenir de l'agriculture, sans que l'on sache si ça peut déboucher vite ou pas. Alors pour accélérer le tempo, Paris va sans doute chercher à rallier à sa cause d'autres capitales, mais ça se heurtera aux pays libéraux, allergiques à la régulation. Le sujet sera aussi aussi l'objet de débats, certainement au sein même de la Commission, où l'on se pose déjà des questions. Faut-il s'appuyer sur le droit de la concurrence, sur la directive qui encadre déjà les pratiques déloyales dans l'agroalimentaire? Et puis, comment appliquer un éventuel EGalim européen alors que la France n'y arrive pas elle-même? Voilà beaucoup de questions qui prendront de toute façon un certain temps à être résolues.
Merci, merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Désolé pour la liaison plutôt défectueuse. Toujours en Europe, le mouvement des agriculteurs se poursuit. Ainsi en Espagne, la mobilisation continue malgré la réception d'une délégation au ministère de l'Agriculture. La simplification administrative et les normes européennes sont au cœur des discussions. En Pologne, les agriculteurs, eux, appellent carrément à la grève générale. En Allemagne, les députés ont voté la suppression progressive d'ici 2026 d'une exonération fiscale pour le diesel agricole, disposition du budget allemand qui avait mis le feu aux poudres. À Mayotte, deux lois en préparation pour 2024. L'une qui doit permettre de favoriser le développement économique de l'île, l'autre qui doit modifier le droit du sol. Une proposition de loi constitutionnelle évoquée hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Nicolas.
Elle doit être présentée par Emmanuel Macron dans les mois qui viennent.
Oui, la réforme du droit du sol envisagée par le ministre de l'Intérieur prévoit d'accorder la nationalité française à un enfant né sur le sol mahorais, uniquement si ses parents peuvent justifier leur présence sur place un an avant sa naissance. C'est une restriction considérable du droit actuel, mais c'est indispensable selon la députée Estelle Youssoufa, membre du groupe L'IOT à l'Assemblée nationale, parce que l'afflux de migrants en provenance des Comores, dit-elle, est devenu ingérable.
On est aujourd'hui à 9 naissances sur 10 à Mayotte, sont le fait de mères comoriennes qui viennent spécifiquement pour accoucher et parce qu'elles ont un enfant potentiellement français, sont inexpulsables.
Le résultat, poursuit Estelle Youssoufa, c'est que la moitié de la population de l'île est aujourd'hui composée de migrants en situation irrégulière et que 12 000 enfants naissent chaque année à l'hôpital de Mayotte.
Plus de 12 000 naissances par an, ça fait une classe à construire par jour si on suit la natalité mahoraise. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a plus aucun service public qui suit, ni la production d'eau potable. On ne peut pas suivre cette évolution démographique qui n'est pas endogène. Tout est en train d'imploser. On va par exemple à l'école, on fait une alternance dans les classes. Une même salle accueille deux classes, une classe le matin, une classe après-midi. L'hôpital, notre seul hôpital pour un demi-million d'habitants, c'est une immense maternité. Les 90% des soins à Mayotte sont des soins obstétriques. Parce qu'il faut gérer le flux des naissances. Avoir un traitement d'oncologie, avoir une consultation d'ophtalmo, c'est mission impossible, vous prenez l'avion pour aller à La Réunion. En fait, tout est monopolisé par la gestion de cette crise migratoire qui ne fait que grossir.
La députée reconnaît toutefois qu'une restriction du droit du sol telle qu'elle est envisagée pose des questions morales, politiques et philosophiques.
C'est un sujet qui est extrêmement grave. C'est un sujet qui interroge les fondements même de notre République. Mais c'est quelque chose qui s'impose malgré nous.
Une telle réforme suppose une modification de la Constitution et un large consensus politique à travers un vote de 3/5 des parlementaires réunis en congrès à Versailles. Des conditions qui, au vu de l'absence de majorité du camp présidentiel à l'Assemblée et au Sénat et de la sensibilité du sujet, paraissent aujourd'hui difficiles à réunir d'ici 2027.
Merci Stéphane Robert. Un nouveau coup dur pour Amélie Oudéa-Castéra, l'un des plus hauts cadres de l'éducation nationale. Le recteur de Paris a démissionné, et c'est une décision rarissime. Le départ de Christophe Kéréro intervient après le choix du ministère d'un moratoire sur une partie de sa réforme des classes prépa destinée à introduire davantage de mixité sociale. Autre signe du malaise à l'éducation nationale, au lendemain d'une grève qui a mobilisé un enseignant sur 5 contre la politique scolaire de l'exécutif, une intersyndicale SNES-FSU, CGT et Sud a appelé à une nouvelle grève le 6 février prochain. Deux travailleurs humanitaires tués et trois autres étrangers blessés en Ukraine. Ils travaillaient pour une ONG basée en Suisse. Le ministre français des Affaires étrangères accuse la Russie qui devra répondre de ses crimes. Je cite Gwenaël Lavina, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Cela remet aussi en lumière les risques pris par les ONG actives sur le terrain pour venir en aide aux populations.
Oui, cette frappe dans la région de Kherson, menée par des drones armés russes, rappelle le lourd tribut que paient les ONG sur place. Les travailleurs humanitaires bénéficient pourtant d'un statut spécial garanti par le droit international. Ils ne sont pas partis au conflit et viennent en aide à tout le monde sans distinction. Un droit régulièrement bafoué puisque plusieurs journalistes et humanitaires ont été tués en Ukraine depuis le début du conflit il y a presque 2 ans. C'est ce que constate Quentin Assaf, responsable géographique Asie et Europe à Première Urgence internationale.
Les ONG travaillent en permanence sur la base de protocoles et de principes liés au droit international humanitaire qui visent à ce que le personnel humanitaire ne soit pas pris pour cible et que l'espace humanitaire soit sanctuarisé. Et aujourd'hui, c'est extrêmement regrettable que dans l'oblast de Kherson, c'est des travailleurs humanitaires qui, une fois de plus, ont payé le prix fort.
Le prix fort est surtout l'impression pour plusieurs ONG que leur statut ne les protège plus et que cela s'aggrave. Et
justement, Gwendal, l'événement d'hier est-il un incident isolé ou bien les ONG ressentent-elles vraiment un changement sur le terrain ?
Plusieurs responsables d'ONG que j'ai pu avoir penchent plutôt pour la deuxième hypothèse et c'est ce qui les inquiète vraiment. Les ONG doivent donc s'adapter, repenser leur façon de travailler, particulièrement ces dernières semaines où il y a une véritable évolution dans la stratégie russe. Écoutez Quentin Assaf.
Aujourd'hui, le contexte sécuritaire en Ukraine est plus particulièrement depuis les frappes du 29 décembre dernier est largement dégradé. C'est un environnement mouvant, dynamique, qui peut évoluer de jour en jour, d'heure en heure, selon les zones sur lesquelles on travaille et qui demande une vigilance permanente pour être en capacité de maintenir l'assistance humanitaire et de délivrer l'aide dont les populations civiles ont grandement besoin.
Pour le moment, les ONG continuent tant bien que mal de faire leur travail, mais ont du mal à cacher leur colère après le drame d'hier et voient mal comment cela peut s'améliorer dans les semaines à venir.
Merci Gwendal Lavina. En Russie, l'industrie de défense tourne à plein régime et soutient l'effort de guerre. C'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine aujourd'hui lors d'un forum de soutien à l'offensive à Toula, c'est à 200 km de Moscou. D'après le chef du Kremlin, 520 000 Russes ont rejoint l'industrie de défense depuis 2022. Le secteur militaro-industriel emploierait désormais 3,5 millions de personnes en Russie. Un chiffre qui illustre l'intensité de cet effort de guerre pour soutenir l'assaut en Ukraine. À Moscou, Sylvain Tronchet.
Si les chiffres énoncés par Vladimir Poutine sont évidemment invérifiables, tout ce qui a trait à l'armée est plus que jamais enveloppé d'une épaisse couche de secret en Russie, il est incontestable que le pays a réorienté ces derniers mois son économie vers la guerre. Le budget de la défense va encore augmenter de 70% cette année, il est désormais bien supérieur aux dépenses sociales, les usines d'armement recrutent à tour de bras, proposant des salaires attractifs, et ce sont elles d'ailleurs qui permettent au pays d'afficher un taux de croissance positif. Sur le terrain, l'armée russe semble toujours disposer de blindés, de missiles, d'obus d'artillerie malgré les sanctions internationales, d'où cet hommage rendu cet après-midi par le chef du Kremlin.
Vous, je m'adresse aux travailleurs des entreprises de défense du pays, avez prouvé que vous étiez digne de nos grands ancêtres qui, pendant la Grande Guerre patriotique, dans les conditions les plus difficiles, ont remporté la bataille industrielle contre l'Allemagne hitlérienne et en fait contre l'industrie européenne qui travaillait alors pour l'Allemagne nazie.
D'après Vladimir Poutine, la production de chars d'assaut a été multipliée par 5, celle des gilets pare-balles par 9, des efforts considérable que la Russie pourrait finir par payer dans le futur, d'après certains économistes, de nombreux secteurs souffrant d'un manque de main-d'œuvre et d'investissement.
Sylvain Tronchet, les États membres de l'Union européenne ont approuvé cet après-midi une législation inédite au niveau mondial pour réguler l'intelligence artificielle. La législation prévoit un encadrement particulier des systèmes d'IA interagissant avec les humains, avec une obligation d'information de l'utilisateur. Le texte impose des contrôles reposant d'abord sur les entreprises. Les négociations ont été intenses jusqu'au bout. Paris et Berlin se sont montrés soucieux que la législation protège les start-up spécialisées dans l'intelligence artificielle pour ne pas empêcher l'émergence de futurs champions européens. La Cour de justice internationale se déclare compétente pour statuer sur la plupart des aspects d'une affaire portée par l'Ukraine qui concerne l'invasion russe lancée en 2022. Kiev exige des réparations. L'Ukraine a intenté la procédure contre la Russie devant la CIJ quelques jours seulement après le début de l'invasion. Bon. Le chef d'un groupe mafieux italien a été arrêté à Aleria, en Haute-Corse, hier soir. Son nom, Marco Raduano. Les forces de l'ordre ont mis la main sur l'un des individus les plus recherchés par Europol et considéré comme dangereux, Pierre Pillet.
Marco Raduano a été interpellé dans le calme hier par les gendarmes de la section de recherche d'Ajaccio, c'est ce qu'indique une source proche du dossier. Une arrestation dans le cadre d'un mandat européen. Il y a un an, cet individu de 40 ans s'est évadé d'un établissement hautement sécurisé en Sardaigne, dans lequel il purgeait une peine de 24 ans de prison. C'est l'un des pontes de la mafia des Pouilles dans le sud-est de l'Italie, un tueur sans pitié selon Europol. L'agence européenne le considère au sommet de l'organisation criminelle dont il fait partie. Une procédure va maintenant être enclenchée pour le remettre aux autorités italiennes, d'après le parquet général de Bastia. Son bras droit a par ailleurs été arrêté, lui aussi, près de Grenade, en Espagne. Une annonce faite par les carabiniers, équivalent des gendarmes en Italie.
Être européen, la deuxième journée de notre série sur France Culture, à l'approche des élections européennes du mois de juin. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Italie, l'Italie en première ligne de l'immigration venue d'Afrique et du Moyen-Orient. L'Italie, pays dirigé aussi par une coalition de droite et d'extrême droite menée par Giorgia Meloni. Notre envoyé spécial Camille Manière s'est rendu dans la région des Pouilles, le talon de la botte italienne, région qui se dépeuple depuis des décennies mais qui, par ses ports notamment, réceptionne chaque année des milliers d'exilés. Et dans les Pouilles, ces arrivées par la mer en rappellent d'autres, celles des réfugiés albanais qui débarquèrent par dizaines de milliers au cours de l'année 1991. Images impressionnantes de navires et de quais bondés, histoire aussi de solidarité spontanée. C'est le dossier de ce journal et il est signé Camille Magnard.
Tantissimi profughi albanesi inizia la distribuzione dei viveri.
C'était le 8 octobre 1991, la plus importante vague de réfugiés albanais, avec un bateau chargé de plus de 20 000 personnes. Et parmi elles, il y avait moi.
Eva Mexi avait 25 ans
en 1991, l'année où l'Italie a été confrontée pour la première fois à des arrivées vraiment massives d'exilés. Deux ans après l'effondrement du mur de Berlin, un an après la chute du dictateur communiste Enver Hoxha, des centaines de milliers d'Albanais fuyaient leur pays épuisé. L'arrivée du bateau, la Vlora, dans le port de Bari, c'est aussi un moment fondateur pour Angelo Cassano. À l'époque, il était jeune séminariste, mais toute sa vie depuis, il a œuvré pour l'aide aux migrants.
Ça a été un miracle. À Paris, il y a eu une grande réaction de solidarité des habitants contre les discours officiels et les médias qui disaient que c'était une invasion. Il n'y a pas eu de réaction négative de la population.
L'État italien lui a fait enfermer les Albanais dans le stade de Bari avant d'en expulser un grand nombre vers leur pays d'origine. Eva Mexi, qui a réussi à s'évader du stade ce jour-là, le confirme. « Si je suis toujours en Italie, dit-elle, c'est grâce aux gens simple et pas aux autorités.
On a croisé un homme qui promenait son chien et je lui ai dit « Nous sommes albanais ». Alors il nous a répondu « Venez chez moi ». Et avec mon mari, on a passé toute la nuit dans sa famille où ils nous ont donné de quoi nous laver, nous habiller, changer notre argent. Ils nous en ont même donné plus. Et puis, ils nous ont commandé une pizza.
Depuis, Eva est devenue citoyenne italienne. Elle s'est même présentée aux dernières élections locales. Un exemple type, selon l'économiste Nicola Daniele Coniglio. Selon lui, on devrait beaucoup plus enseigner l'histoire de ces Albanais comme celle d'une immigration réussie.
Cette histoire migratoire a commencé comme celle des migrants africains actuels, avec des discours sur le fait qu'ils viennent voler nos emplois, qu'ils sont des criminels, etc. Et ensuite, comme par magie, ils ont disparu pour se fondre dans notre société, ils sont complètement intégrés et ils réussissent très bien socialement et économiquement.
Et comme un retournement de l'histoire, plus de 30 ans après 1991, aujourd'hui c'est l'Albanie qui se dit prête à prendre sur son territoire les migrants arrivés en Italie par bateau, le temps que leur demande d'asile soit étudiée. Un projet aussi révoltant que dangereux pour la juriste défenseuse des droits des exilés Erminia Rizzi.
Je n'arrive même pas à comprendre. Des juges italiens vont aller instruire des dossiers en Albanie? Quels mécanismes de contrôle sont prévus?
À chaque fois qu'un pays a essayé d'externaliser le droit d'asile, ça a conduit à de graves violations de ce droit.
L'accord signé entre Rome et Tirana prévoit pourtant que jusqu'à 30 000 demandeurs d'asile en Italie pourront être transférés chaque année de l'autre côté de l'Adriatique. La Cour constitutionnelle albanaise a validé ce projet en début de semaine, mais d'autres recours dans les deux pays pourraient encore faire obstacle à sa réalisation.
Le reportage de Camille Magnard dans les Pouilles est à retrouver sur le site France Culture. Un mot du temps, demain il sera bien ensoleillé au sud-est et très nuageux au nord. Les maximales s'échelonneront de 7 à 12 degrés sur le quart nord-est jusqu'au nord de Rhône-Alpes, de 10 à 15 degrés ailleurs. Elles vont atteindre 17 à 22 degrés sur le pourtour méditerranéen. Ce journal est terminé. Il a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique, Marie-Claire Omabadi.